allez-y.
Non, une seconde. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Spéciale
élection
20h48,
le ministère de la... Oh,
hey, oh, vous gueule, bordel. Bien mangé.
Ah, ces conneries de transistor, ça marche jamais comme
ça. 14e,
je ne... Tu vois que les Français ont voté comme des cons.
Bonjour. Bien, je suis très heureux d'accueillir à cette table un tavernier. Bertrand Tavernier, vous êtes cinéaste. Vous venez de réaliser un grand voyage dans le cinéma français qui est présenté à Cannes Classique au 69e Festival de Cannes. Mais j'accueille non seulement le cinéaste, mais aussi le président de l'Institut Lumière et aussi un grand gourmand. Et le fils de Ginette et René Tavernier, qui ont écrit ensemble « Cuisine du terroir » chez De Noël. Et ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez le goût de cette enfance lyonnaise.
Oui, je crois que mon père aimait bien la nourriture. Il ne cuisinait pas du tout. Ma mère était une très bonne cuisinière. Mais mes souvenirs de la cuisine de ma mère sont surtout liés à Paris, parce que dans ma petite enfance lyonnaise, entre 1 et 5, 6 ans, on fait pas trop attention. On fait attention à certaines choses. J'ai quelques souvenirs de cuisine à Lyon, et après qui se sont retrouvés quand on revenait, soit chez l'une ou l'autre de mes grands-mères. Là. Par exemple, un souvenir très très précis, c'était que ma grand-mère maternelle était une femme très pieuse, qui allait à tous les enterrements et qui s'occupait beaucoup des ventes de charité, ce qu'on appelait. Et donc, elle cuisinait pour les ventes de charité. Et je me souviens qu'on fabriquait dans la cuisine familiale des meringues. Et ça, c'était un des grands moments de mon enfance. J'avais le droit de gratter les plats qui sortaient juste de cuisson. Donc, il y avait les bouts de meringue caramélisés qui étaient tombés, les choses comme ça. Et j'ai gardé de ce souvenir de l'odeur de la meringue. Et c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Et quand j'ai eu une maladie, j'ai eu un cancer, dont je me suis tiré, mais parmi les aliments qu'on me permettait dans les desserts, il y avait la meringue. Ce qui fait que j'ai tout d'un coup, pendant un moment, ça a été lié aussi à la période où je retrouvais la santé et je retrouvais en plus mes souvenirs de petite enfance.
Bertrand Tavernier, dans les plats de cuisine lyonnaise, est-ce qu'il y a un plat que vous savez préparer ou que votre mère Ginette préparait de façon particulière?
Moi, je me débrouille vraiment, je crois, pas trop mal avec le poulet au vinaigre, la volaille au vinaigre, qui est un plat. La recette qu'elle donne, eh bien, je trouve qu'elle a, si j'avais pu relire le livre, elle marque concentré de tomate, j'aurais dit moi coulis de tomate. C'est rien du tout. Mais la volaille au vinaigre, oui. Il y a plusieurs plats de volaille, le poulet à l'ail, la poularde à la lyonnaise, qui est cuite dans du bouillon. Ça, je trouve ça délicieux. Délicieux. La volaille, justement, cuite sans matière grasse dans du bouillon de légumes et avec une sauce qu'on lit ensuite, c'est absolument formidable. Je n'ai jamais essayé de faire ce plat mythique que réussissait merveilleusement la mère Brasier et la volaille demi-deuil.
Demi-deuil ou plein d'œil. Par Raymond Barre, il l'aimait plein d'œil, c'est-à-dire la peau totalement recouverte de truffes.
Je reconnais là bien Raymond Barre. Ça bien. Non, mais ça, c'est un plat mythique. Et il y avait les salades lyonnaises que j'aimais beaucoup, les salades où on mélangeait, alors il y avait du pissenlit où on mettait du lardon, un œuf mollet, la salade de lentilles, c'était formidable, le caviar de la Croix-Rousse. Je me souviens dans mon enfance que quand j'avais une de mes tantes m'emmenait dans un de ces bouchons lyonnais, j'étais épaté par l'assortiment de charcuterie chaude qu'on mangeait, non pas avec des pommes à l'huile, mais avec des pommes vapeur, ce qui était moins gras. On n'ajoutait pas la graisse à la graisse.
Bien sûr. Puis, de toute façon, c'est très léger, le saucisson lyonnais. C'est...
Mais, et puis, il y a, mais, je sais que c'est bien qu'il soit truffé à la pistache, mais il en a pas besoin. C'est le saucisson lyonnais qu'on achetait au Hall avant qu'elle déménage et puis qu'on continuait. Il y avait encore, j'ai tourné des scènes de l'horloger de Saint-Paul dans des endroits où on continuait à vendre et du merveilleux fromage entre Maréchal, la Mère Richard, là. Et de très 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 bons saucissons à cuire. Ça c'est ça, j'adorais ça, la pratique du mâchon lyonnais. Ça.
Bertrand Tavernier, vous, si on évoque l'horloger de Saint-Paul,
le film après une séquence pré-générique s'ouvre par une scène de repas. Et dans un bistrot qui s'appelait le Garret, où j'ai fait venir une des figures légendaires des bouchons lyonnais de l'époque, qu'on appelait Papa Chauvin, qui tenait le Café des Fédérations, et qui était rude, hein, qui était comme beaucoup de restaurateurs lyonnais, il était rustique. Hein, je me souviens quand on avait déjeuné, on écrivait le scénario avec Jean Orange, et il nous avait dit « Bon, ben, je vous servirai pas le plat suivant tant que vous n'aurez pas terminé ». Et ce café, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché récemment, c'est que ce café où j'ai tourné, j'ai découvert dans un film qu'avait fait Régis Debray, que c'était l'endroit où Jean Moulin donnait ses rendez-vous. Ce que je ne savais pas, et tout d'un coup, là, il y a quelque chose d'inconscient, que j'ai été attiré vers cet endroit qui était le haut lieu de la résistance lyonnaise, résistance à laquelle, à sa manière, de manière peu, pas guerrière, mais quand même, avait participé, et mon père et mon parrain, Auguste Anglès. Et mon père, par cette revue, par la création de Confluence, à part les deux premiers numéros, où je crois qu'il est encore dans la croyance que Pétain peut arranger les choses, mais très vite, il va se couper de ça, et il va prendre plusieurs initiatives qui lui voudront des interdictions de Vichy, la traduction de Pour qui sonne le glas paraîtra pour la première fois dans Confluence, des poèmes d'Aragon, des articles d'un numéro spécial consacré au roman, puis la collaboration de beaucoup de gens, de Jean-François Revel à Georges Sadoul, de Jean Prévost.
Alors, j'ai appris dans votre voyage dans le cinéma français, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'amour heureux. Aragon l'avait écrit pour votre mère.
Oui, on a un exemplaire où c'est à Geneviève Tavernier. C'est dédié à Geneviève Tavernier. Il n'y a pas d'amour heureux. Il l'a écrit. Et mon père disait toujours, ou c'est ma mère qui me disait, enfin, vous savez, c'est très lyonnais. Je l'ai appris tard, ça. On se vante pas à Lyon, hein, ça se fait pas. Et ma mère me disait, elle était vers la fin de sa vie, elle disait que ça avait rendu Elsa furieuse.
Ah, monsieur, je vous remercie de votre délicatesse, vous m'avez attendu.
Ah, plein de bœuf.
Ah, donne-moi mon bœuf.
Alors, elle marche maintenant?
Oui, c'était trois fois rien. Ça manque un peu d'oignon, cette salade de bœuf. J'aime bien parce que ça donne bonne haleine. L'oignon. Voilà. C'est l'avantage d'être célibataire, messieurs. On peut manger de l'oignon.
Ah bon, les bons, voilà, voilà. Merci.
Bertrand Tavernier, quand vous dites oignon ou oignon?
Oh, moi, je dis oignon, mais Noirès avait insisté. C'était très bien. C'était un apport de Philippe, là, oignon. On prononce oignon. C'est un truc que j'avais trouvé ça délicieux. J'avais tout de suite accepté.
Philippe Noiret et vous, il y a une parenté, enfin, c'est une espèce de double.
Ah oui, c'est mon grand frère, c'est mon, je sais pas, c'est et puis c'est un homme qui m'a tellement apporté, qui m'a, sans lui.
Parrainé.
Oh, plus que parrainé. Il s'est battu avec moi pour faire aboutir ce premier film. C'était un homme honorable. C'était un homme qui avait une parole. C'était un homme, non, mais attends, je vais m'arrêter parce que
Alors,
parler de Philippe, ça me joyeux, touche énormément.
Philippe Noiret à table, oui. C'était comment?
Oh, ben, c'était remarquable. À voir quand on était reçu chez lui, puis au restaurant. À partir d'un moment, il a fait beaucoup plus attention quand il a eu un problème de vésicule. Et donc, mais au départ, c'était d'abord la bouteille de champ qu'on ouvrait avant chaque dîner. Il l'offrait pendant tous les tournages, le soir, à quelques amis, à quelques les techniciens qui étaient là, du champagne. On avait tous les jours du champagne. Et voilà. Et c'était quelqu'un qui aimait. Là, on avait les mêmes goûts, des goûts de provinciaux. On aimait les recettes traditionnelles. On aimait les daubes, le lapin au pruneau, les volailles, le côté. Je rappelle que lui et son ami Raoul Biguiret étaient exaspérés par certaines afféteries de la cuisine moderne. Par exemple, je me souviens, pendant qu'on faisait La fille d'Artagnan, Raoul Biguiret poussait une crise dès qu'il voyait des kiwis décorant l'assiette. Et il appelait le type, il disait « Vous me retirez tous ces kiwis, je veux le plat tel qu'il est, je n'ai pas besoin de kiwis autour de ces trucs. » Ça, il disait, c'est tout de suite un très mauvais signe. Quand les gens autour d'un pâté vont croire obligés de mettre de faire une décoration de kiwi, ils disent là, je le sens mal. C'est pas bien.
Philippe Noiret, vous l'avez rencontré sur le tournage de La Grande Bouffe ou avant ?
Je l'avais rencontré avant. Je l'ai rencontré quand j'étais attaché de presse pour la sortie de La Guerre de Murphy. Film qu'il a fait, qui était un bon film de Peter Yates avec Peter O'Toole. Et puis, sa décision de faire L'Horloger de Saint-Paul, je me souviens, s'est déroulé dans un restaurant qui a disparu depuis, qui s'appelait Yvonne, rue de Bassano. Et c'est là que je suis rentré un peu en tremblant. Je lui avais envoyé 30 pages que j'avais écrites et il m'a dit, je fais le film.
Et à l'époque, voilà. Ça voulait dire le film se fait.
Non, mais c'était déjà un appui. Il m'a dit, mon agent m'a dit que non, je ne devrais pas le faire. Voilà, l'agent d'Armédia. Là, m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. Je le fais. Et pendant les 2 ans, il a été à mes côtés tout le temps. On se faisait virer par tous les producteurs qui nous traitaient de manière souvent avec une muflerie. Absolument inouï. Et pendant que je tournais, quand j'ai réussi à tourner, je lui ai dit un jour, mais Philippe, pourquoi t'as tenu autant de temps, moi ? Je veux dire, si après un an, t'avais renoncé, j'aurais tout à fait compris, je t'en aurais pas voulu. Il m'a dit, mais attends, j'avais donné ma parole. Et voilà.
Et du coup, les oignons.
Oui, les oignons, et puis tellement de souvenirs ensemble, et puis de découvertes. Et en effet, quand on était reçu chez lui, je me souviens des confitures que faisait sa femme, Monique Chaumette. Il y avait marqué confiture de poire rangée à droite dans l'allée. Ça, je trouvais formidable. Ben, peut-être qu'elles avaient un goût différent de celle de la rangée de gauche.
Mais certainement.
Mais oui, et ça, j'adore ça.
Certainement. J'adore ça. Et on a eu la version d'Andrea Ferréol et de Philippe Sard de la Grande Bouffe. Mais alors, la version de Bertrand Tavernier qui était tout près.
Ah oui, moi, j'ai assisté à la gestation de la Grande Bouffe. À la Grande Bouffe, c'était dans un restaurant de la rue de Ponthieu, que fréquentaient beaucoup les frères Sard, et puis les
donc
gens
Philippe le musicien et Alain Sard,
Philippe et Alain
qui n'étaient pas encore producteurs.
Oui, qui habitaient dans le passage du Lido, ce qui était un des endroits les plus surréalistes du monde.
Où le père avait un magasin de sport.
Le père avait un magasin de sport et surtout contrôlait tous les photomatons et les appareils à photocopier du 8e et du 16e, ce qui fait quand on rentrait, il y avait des piles de pièces de 1 franc. Il y avait des tas de pièces partout, tout le temps. Et c'était un restaurant. Alors maintenant, ma mémoire me trahit. Est-ce que ça s'appelait le Tangage, je crois? Le Tangage. C'était un restaurant et ils étaient souvent au premier étage. Et une des habitudes de Philippe Sard et d'Alain, c'était quand ils avaient commandé certains plats, au bout de 7-8 minutes, il paniquait, il dit « on n'a pas commandé assez », il rappelait, et avant d'être servi, il recommandait le double. Et je voyais Ferreri qui regardait ça d'un œil un peu narquois. Il n'était pas le dernier à cracher, surtout quand on l'invitait, je veux dire ça. Et voilà, et c'est comme ça que je pense qu'en voyant la quantité, mais colossale, de nourriture que commandaient Philippe et Alain, et parfois aussi de nourriture qu'ils cuisinaient dans leur... Enfin, pas que eux, que cuisinait Hugo Tognazzi, quand il faisait des pâtes... Là, s'il les avait pas fait passer à travers une raquette de tennis, je crois qu'à un moment.
Philippe Sard raconte que le déjeuner inaugural fondateur était chez Prunier.
Oui, ça c'est possible, ça j'y étais pas.
Où vous étiez, c'était après le tournage de Lisa.
Oui, c'est possible, c'est possible.
Et il y avait Tognazzi, Ferreri, des frères Sard, et que après. Hugo Tognazzi a fait des pâtes,
oui,
qui ont été passées dans des raquettes de tennis.
Oui, ben donc
ils n'avaient pas commandé que des pâtes.
Oui.
Il y avait aussi des jeunes filles.
Oui.
Que Bertrand Tavernier était parti, moi je partais
dans ce moment-là. Le côté c'est des choses après que j'ai mises dans Des enfants gâtés quand il disait ce soir il y a nocturne à la Samaritaine pour indiquer qu'il y avait qu'il voyait des prostituées. C'était pas mon truc, moi ça c'était donc je verrais, mais ça fait partie de cette ambiance très très pittoresque. Mais en effet, Tognazzi en train de cuisiner des pâtes. Et Tognazzi, qui n'était pas un être très agréable, mais en revanche, à table, quand il parlait cuisine, tout, c'était quelqu'un de formidable.
À propos d'Italie et de pâtes, et de votre ami Philippe Noiret, je crois qu'il vous a... Il vous avait raconté une fois à l'Institut Lumière, en présentant Mes chers amis, qu'il vous avait appelé sur un tournage un peu particulier.
Mais il était très content d'un film qu'on avait fait ensemble. Et il voulait me remercier, donc il m'avait invité à... assister à 2-3 jours de tournage à Florence de Mes chers amis. Donc on était là dans un hôtel tout à fait merveilleux. Et j'assistais au tournage qui était hyper décontracté. Hein. Monicelli était un délice. Et surtout, il pouvait arrêter le tournage quand il voulait. Donc il l'arrêtait généralement à 3 heures. Et de 3h à 6h, c'était la discussion de savoir où on allait dîner le soir. Il fallait prendre la décision. C'était un débat cornélien. Et ensuite, le débat continuait quand on commençait à s'asseoir sur la qualité de l'huile d'olive que tout le monde goûtait sur du pain, faisait ramener une autre bouteille, comparait l'huile d'olive, le vin qui allait aller... Avant la vraie commande du repas, entre-temps, le restaurateur avait amené des crostini ou un peu de soupe au pain pour goûter, parce que vous pouvez pas boire comme ça du vin et puis ne pas manger, ou un peu de saucisson. Et il y avait des comparaisons, il y avait « Ah non, pas celui-là, celui-là ». Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger. Chabrol, c'était aussi quelqu'un avec qui c'était formidable.
Alors lui, vous l'avez connu quand vous avez commencé à être attaché de presse.
Oui, quand j'étais à mes débuts, à la fois à Rome Paris Film, je me suis occupé de films, un film que j'aimais bien, qui était L'œil du malin, de Landru, de Marie Chantal contre le docteur K, que je serais très curieux de revoir. et puis après... Quand je suis devenu attaché de presse indépendante, Claude m'est resté très très fidèle. Il m'a demandé pour Que la bête meure, Le boucher, Juste avant la nuit. J'ai fait énormément de films avec lui. C'est un homme qui m'a toujours enchanté. Et quand j'ai connu des moments de doute épouvantable, un jour, pendant le montage de Capitaine Conan, où j'étais plus bas que terre, il est venu voir un bout de montage. Il m'a dit « Mais t'es cinglé !» j'étais cinglé d'être comme ça. Et écoute, ce que je viens de voir, c'est formidable. C'est, il m'a à un moment un peu sauvé la vie. Il fait partie des gens sous son côté comme ça, insouciant, farceur, etc. C'était quelqu'un de vraiment chaleureux. Claude, alors, vraiment.
Il se définissait volontiers comme un ogre.
Oui.
La table avec avec Claude Chabrol, quand vous êtes un jeune attaché de presse et lui un jeune cinéaste, c'était déjà important.
Ah, c'était important. Il y avait un truc chez Bourgard. Rome Paris Film. On allait fréquemment ensemble déjeuner au Gourmet des Ternes, qui était un des endroits où il y avait une des meilleures viandes de Paris, et le patron, Monsieur Marie, était un homme qui a beaucoup, qui a joué un rôle très important dans toute l'enfance. C'était une vraie nourriture. Alors lui aussi, il refusait les guides. Et donc, j'en allais très très souvent avec Claude au Gourmet des Ternes. Bon. Et puis après, quand j'ai été attaché de presse indépendant, il y avait une règle. Il avait fixé lui-même une règle. C'est que si le film atteignait un certain nombre d'entrées, il m'invitait chez Denis. Denis était à ce moment-là un restaurant
qui n'existe plus,
qui était un restaurant prestigieux, je crois rue Gustave Flaubert. Je me demande si c'est maintenant pas devenu un Michel Rostand, le restaurant de Michel Rostand, un truc comme ça. Et Denis avait eu avait une heure de gloire dans les magazines, enfin de gloire qui je pense s'était retournée contre lui. Il aurait servi le repas le plus cher de l'époque, à deux Américains qui a fait le pari de battre tous les records, notamment en choisissant des vins, des apéritifs et surtout des alcools tellement vieux que, je veux dire, Chabrol, quand il le racontait, disait que si en versant il y a une goutte qui glisse sur l'extérieur du verre, on se dit on vient de perdre 500 francs, quoi, je veux dire. Et voilà, donc on faisait des repas et c'était pas un goinfre, hein, Chabrol. Il savait ce qu'il commandait, les trucs qui allaient avec. Il avait beaucoup de délicatesse. Dans les gens de cette équipe, la Nouvelle Vague, c'était celui qui était le plus réellement gourmet et gourmand. Les autres, c'était l'autre du tel. Vous voulez dire que
votre ami Jean-Luc Godard n'était pas un grand gourmand?
Non, non. La table n'intéressait pas ni lui ni Rivette ni comme ça. Rennais, j'ai découvert que Rennais était un gourmet extraordinaire. C'était un gourmet qui connaissait très très bien en restaurant japonais, en restaurant libanais et en dessert sucré.
Dans les jeunes hommes qui sont devenus cinéastes et que vous avez connus très tôt, il y a Volker Schoendorf.
Oui. Alors lui, en Allemagne, j'avais habité chez lui, j'avais découvert, ça avait été un très mauvais choc culinaire, les salades au lait ou à la crème sucrée. Ça, j'avais détesté, j'avais haï ça, les salades allemandes, ça c'était un souvenir. En revanche, j'avais été épaté par les dégustations de vin auxquelles se livrait son père, qui goûtait des vins blancs et qui arrivait à repérer les coteaux. Il m'avait épaté.
Parce que Volker Schoendorf, vous êtes retrouvé stagiaire l'un et l'autre chez Melville.
Non, lui était déjà deuxième assistant et il a tout de suite, Melville ayant pris en grippe le premier assistant, il l'a haï avant même de commencer le film.
Il a besoin de ça, peut-être, non?
Je ne sais pas. Donc, ce type-là était interdit de plateau. Il était même interdit, il lui avait interdit de sortir de son bureau. et Volker me rappelait qu'il est sorti deux fois pour servir de contrepoids à la grue, parce qu'il était assez massif. Donc, on l'a extirpé du bureau, on l'a mis sur le bras de la grue.
Bertrand Tavernier, sur Léon Morin Prêtre, je crois que vous avez une jolie histoire de fruits à nous raconter.
Oui. Il y avait un conseiller religieux, bien sûr, sur ce film, qui était délicieux d'ailleurs, qui s'appelait le père Lepoutre. qu'il en faisait, le nombre de plaisanteries qu'on a fait sur la paille qui est dans son œil, la poutre, etc. C'était.
Et vous aviez élevé le débat.
Oui. Et un jour, il a fait une objection sur le fait que je ne sais plus si c'était Emmanuel Riva ou Belmondo qui offrait un fruit à l'eau, et c'était Melville avait choisi une pomme. Et il a dit, ah non. Il y a un symbole religieux qui est trop présent avec ce fruit, il faut changer de fruit. Évidemment, c'est tombé sur le stagiaire, qui était moi, à qui on a dit, il faut tout de suite trouver une poire. C'était lundi matin, on est dans le 13e arrondissement, dans la partie du 13e, la rue Genère, au-dessus de... pas loin de la statue de Jeanne d'Arc, et il y avait très peu de magasins. Autour de la place d'Italie, il n'y avait pas de... notamment de primeurs, de fruits. C'était... Donc j'ai pris du temps. Je me suis fait drôlement engueuler parce que j'ai pas ramené dans les 10 minutes. En plus, je faisais tout ça à pied.
Et Melville, c'était pas l'archétype du gourmand, ni du gourmet.
Non. Il y avait des plats qu'il aimait, Melville. On dînait souvent très tard parce que s'il était insomniaque, et je me souviens de restaurants, il m'amenait, il y avait un restaurant qui s'appelait La Cigogne, rue Daniel Casanova, ou dans c'était pas loin du boulevard des Capucines, dans une rue perpendiculaire. Et surtout, Melville m'a introduit à un endroit que j'ai adoré, que j'ai adopté pendant des années, qui était la boutique à sandwich.
Rue du Colisée à Paris.
Rue du Colisée, où il m'a fait découvrir le Pickelfleisch, que j'ai trouvé ça délicieux, avec une sauce au réfort.
Oui, c'était deux frères alsaciens.
Oui.
Qui faisaient du Pickelfleisch, donc qui étaient,
C'était je pense, le seul endroit à Paris. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore certains des restaurants de la rue du Rosier, Goldenberg, j'avais jamais été. Mais Melville, lui, voulait manger son Pickelfleisch là. C'était l'endroit qu'il avait choisi. C'était un délice, avec des cornichons, une salade de pommes de terre, du réfort, et aussi le sandwich au tartare de bœuf, la raclette. La boutique à sandwich, j'ai été horriblement triste de sa disparition.
Oui.
C'était un endroit où la cuisine était délicieuse, c'était très chaleureux, des plats uniques.
Oui. Il y avait des sandwichs au pastrami, on n'en trouvait pas du tout à l'époque.
Mais oui, c'était... Et je ne savais pas que c'était la culture de Woody Allen, c'était les endroits... C'était un délit que j'ai retrouvé ça quand j'allais à New York, au Carnegie Deli, où on avait des... Alors... avec les proportions américaines, le sandwich avec trois étages de pastrami entre deux tranches de pain.
Bertrand Tavernier, je suis terriblement triste parce que c'est la fin de cette émission. Enfin,
on a très peu parlé de cuisine.
En tout cas, de ce premier voyage, parce que si vous le voulez bien, on en fait un. La semaine prochaine,
c'est avec plaisir, chez avec vous.
Nous irons peut-être dans les cuisines de Duvivier, de Becker, avec Jean Gabin, peut-être même avec Tarantino, qui sait.
Attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Kruger, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Manon Houssin, et la mise en onde d'Anne Pérez. Je tiens à remercier aussi Jean-Louis Laprune qui nous a accompagnés dans cette aventure. Et vous pouvez réécouter cette émission éternellement, comme le cinéma. Et vous pouvez aussi la podcaster pendant un an. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey, 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 hey